Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Nous sommes donc de retour avec Dominique de Forio, qui est conservateur général du patrimoine au musée du Louvre et directrice du musée Eugène Delacroix. On rappelle aussi qu'elle est diplômée d'Audencia Business School et peut-être qu'à la fin de l'année, on reviendra pour parler de son profil et de son parcours assez particulier. Après ces deux épisodes sur le nu, nous allons passer sur le mouvement. Donc je vous donne le micro.
Merci beaucoup Mehdi, hein, c'est vraiment une joie de vous retrouver. Alors je voulais vous parler, on a parlé des canons, on a parlé finalement aussi des modèles du corps et donc d'un corps assez rigide, représenté, enfermé dans sa représentation. Mais la question du corps aussi, c'est que le corps dans la vie, donc dans ce que nous éprouvons, est finalement rarement immobile. Le corps complètement immobile, c'est finalement le corps mort, si on peut dire ça, ce qui est assez sinistre, mais ce qui est une réalité. C'est vraiment cette rigidité, hein, du cadavre. D'ailleurs, qui a fait dire à certains commentateurs, je pense notamment à Charles Baudelaire, de dire que pour lui, la sculpture s'apparentait à la mort, puisque la sculpture, finalement, c'était aussi le corps froid et le corps mort. Donc, il avait une certaine distance, d'ailleurs, par rapport à la sculpture de son temps. Le corps, il bouge. Et finalement, la représentation qu'en donne et la peinture et la sculpture ou la photographie, et même si elle essaye d'être la plus vraie possible, comme on le disait, est forcément mensongère, parce qu'un corps vivant, immobile, ça n'existe pas. On arrive d'ailleurs très très peu, hein, si on essaye les uns ou les autres de rester immobile plus que de quelques minutes, on n'y arrive pas. Quelque chose, le bras va bouger, la paupière va se lever, on va tourner la tête, enfin, vous le savez bien, on a tous éprouvé ce type de choses, c'est quasiment impossible à faire. Et ça, c'est un des points très intéressants, c'est que dans l'enjeu de la représentation du corps, c'est que le corps est toujours en mouvement, parce que le corps est animé par un principe de vie, et que ce principe de vie, cet anima, le fait rentrer en mouvement. Et ça aussi, les penseurs antiques ont bien sûr tout de suite compris, enfin tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais ont très bien compris et mis en œuvre cet élément-là, que le corps, en tant que tel, était un corps qui changeait d'aspect, donc un corps qui se métamorphosait. Et tout le rapport à la métamorphose, et notamment si on pense à ce très beau texte poétique que sont les Métamorphoses d'Ovide, donc écrite par Ovide, poète romain sous Auguste, les Métamorphoses d'Ovide, c'est aussi cette référence à la métamorphose du corps, c'est-à-dire du fait que nous ne ressemblons pas à la même personne quand nous courons, quand nous marchons, quand nous sommes assis, quand nous pleurons, quand nous rions. Et notre corps se transforme. On en a tous fait l'expérience. De temps en temps, on voit une photo de nous en train de rire et comme finalement, on ne se voit jamais en train de rire, c'est impossible, on se dit « mais c'est quoi ? C'est pas moi ?» Parce que le rire déforme nos traits et d'une certaine manière, nous ne sommes pas liés à cette représentation que nous avons de nous-mêmes puisque nous ne connaissons pas en train de rire. Je prends cet exemple-là, mais il peut y en avoir d'autres. Et donc, il y a là quelque chose qui, du point de vue des arts visuels, et notamment des arts que sont la peinture, la sculpture, la photographie, une sorte d'impossibilité, une sorte d'aporie. On est dans une forme de vide philosophique. Comment représenter ce mouvement? Et ça, c'est un enjeu qui est là depuis là aussi la Grèce antique. C'est comment peut-on représenter le mouvement? Parce que le mouvement induit deux éléments. Il est métamorphose, donc il est déformation du corps, et donc il casse le rapport à ce corps idéal qui est la représentation dont on parlait tout à l'heure du nu, hein, puisqu'il est, il est déformation forcément, donc il casse. Et puis l'autre élément, c'est que le mouvement et cette représentation du mouvement induit quelque chose qui n'est pas celui de l'instant, mais celui de la durée. S'il y a mouvement, il y a temps qui passe. Forcément. Or, comment, avec une représentation figée, représenter la durée? C'est quasiment impossible. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est un véritable défi. Et c'est un défi qui a intéressé les artistes, comme d'ailleurs les commentateurs de l'art, hein, comme d'ailleurs les philosophes ou les critiques, très tôt. C'est-à-dire comment on peut induire cette idée du mouvement. Alors, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Il y a la réflexion, si on pense à quelque chose qui a été très représenté, un modèle qui a été représenté très, très vite et qui est celui issu d'ailleurs, qui est d'ailleurs issu des métamorphoses d'Ovide, c'est Apollon poursuivant Daphné, la nymphe, qui, ne voulant pas succomber aux dieux, se transforme en laurier. Donc, il y a cette métamorphose de la femme en plante. Et donc, il y a dans ce métamorphose d'Ovide, d'Apollon et d'Aphné, à la fois la poursuite, donc la course qui déforme le corps d'Apollon comme celui de la nymphe, et puis celui de la transformation, c'est-à-dire le fait qu'elle devient plante, donc qu'il faut aussi montrer. Et donc, les artifices des artistes par rapport à ça, c'est celui du groupe, c'est-à-dire le fait que Apollon et Daphné ne sont pas représentés de la même façon, donc on joue sur la séquence, donc du coup cette séquence redonne la durée, donc ça c'est un point évidemment tout à fait intéressant à considérer, c'est-à-dire que si on a plusieurs personnages, du coup on peut jouer sur cet effet de transformation, ne serait-ce que la transformation homme-femme d'une certaine manière qui est là évidemment présente, donc ça c'est un point tout à fait intéressant à considérer. C'est aussi celui du geste et de la manière dont le geste est fait et joué de façon est représenté de façon la plus juste possible. Et ça renvoie à cette idée de transformation qu'implique le geste. Mais quel est le geste le plus signifiant ? C'est-à-dire, quel est le geste qui va dire que vous courez ? Comment représenter quelqu'un qui court ? Quelqu'un qui court, ça induit la question de vitesse, et cette question de vitesse, effectivement, transforme son corps. Et donc, en fait, la question de la représentation du mouvement et de cette métamorphose du mouvement pose la question de l'instant de la représentation. Ça ne peut pas être celui du départ de la course, parce qu'à ce moment-là, la course n'est pas encore entraînée, donc on ne représente pas ce moment-là, mais c'est celui où la course est déjà là, et donc c'est souvent quelque chose qui n'existe pas tel que c'est réellement dans l'existence, mais qui est celle d'un mouvement qui va transformer non seulement le corps représenté, avec par exemple les deux pieds ne touchant pas terre, ou un pied d'appui et l'autre et la jambe levée derrière, mais aussi ses vêtements, sa chevelure, pour donner cette idée de la représentation du mouvement, puisque l'image est fixe et évidemment, il faut donner cette représentation du mouvement. Et si on parle de la métamorphose, qui est la métamorphose, par exemple, de Daphné en laurier, c'est l'idée, du coup, de pouvoir associer dans un même élément, avec une forme de torsion, quelque chose qui associe à la fois la femme, avec en général un corps de femme, et puis les jambes qui déjà se transforment en laurier, donc qui jouent sur cet élément-là. Et il y a donc un véritable enjeu de l'instant. Et l'instant est quelque chose dans la représentation du corps qui est très intéressant parce que du coup, là aussi, ça rajoute un nouveau point de vue. Un point de vue qui est non seulement celui du corps idéal, mais qui est aussi celui du moment où il est représenté et comment on le représente. C'est un enjeu qui a été présent pour les artistes jusque tout au long du 19e siècle, jusqu'au moment où s'est inventé un art qui, par essence, est un art du mouvement et de la métamorphose, qui est le cinéma. Parce que le cinéma, enfin, si on peut dire ainsi, à la fin du 19e siècle, donc à partir de 1895, a permis de représenter la métamorphose du corps. Le corps pouvait se métamorphoser et la durée du cinéma pouvait accompagner d'une certaine manière la durée de représentation du mouvement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là aussi, le cinéma, quand il s'est inventé, ne s'est pas éloigné des modèles picturaux et a retenu aussi cet aspect du choix de l'instant, alors que même, quand on se dit, après tout, on peut placer une caméra et puis les personnes vont bouger devant la caméra et on va représenter le mouvement tel qu'il est, et puis voilà. En fait, ça a été plus complexe, et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est que le cinéma s'est aussi inspiré des modèles picturaux parce que, comme il est représentation, les spectateurs ont envie de voir quelque chose auquel ils sont habitués. Et pour conclure, je vais prendre un exemple, c'est que quand, ce qu'on appelle la chronophotographie, c'est-à-dire la photographie prise en différents temps, puis le cinéma, ont représenté, par exemple, la course du cheval, pour parler d'une représentation qui n'est pas celle du corps, mais la course du cheval, et qu'on s'est rendu compte que contrairement à la représentation du galop du cheval, le cheval n'avait jamais les quatre pattes qui quittaient le sol, donc il ne volait pas comme on avait cette impression hein, dans la représentation, mais qu'il y avait toujours au moins une des pattes qui était au sol, et bien malgré tout, que ce soit en peinture ensuite, alors qu'on le savait, ou même au cinéma, on a pu continuer à tricher pour le représenter comme ça, parce que ça donnait l'idée de vitesse. Et la même chose d'ailleurs pour la course humaine. Donc de voir finalement que cette métamorphose, qui est une métamorphose picturale et poétique, est finalement suffisamment séduisante pour perdurer, même quand on a visuellement un effet inverse.
Merci à vous Dominique pour cette série donc, de 3 podcasts sur le corps. On se retrouve très rapidement avec Francis Wolff qui continuera un petit peu cette analyse du mouvement avec notamment une analyse de la musique.